Merci Vincent, bon dimanche et à la semaine prochaine. D'ailleurs, ce sera le dernier week-end avant Noël. Allô, ici Bouvard, c'est notre cadeau de Noël hebdomadaire, Philippe Bouvard. Bonjour Philippe.
Bonjour Caroline.
Ravi de vous retrouver, il me tarde d'entendre votre avis sur l'actualité. Alors.
Ah, une actualité particulièrement chaude et grave dont nous allons très peu nous écarter aujourd'hui.
On y va Philippe.
Question d'actualité, question épineuse, question délicate. Est-ce que ce qu'on appelle la théorie du complot constitue une hypothèse, une rumeur, ce qu'on appelle en franglais une fake news ou tout simplement une calomnie? Ben, en tout cas, on a été confronté ces jours derniers à une énorme, énorme rumeur qui consistait à dire l'attentat de Strasbourg a été organisé par le gouvernement pour détourner l'attention de l'opinion publique et des médias des Gilets jaunes. Bon, c'est épouvantable de penser qu'un gouvernement peut faire tuer des citoyens uniquement pour l'intox, parce que c'est de l'intox. C'est évidemment outré, ça ne tient pas debout. Et alors, ceux qui avaient défendu cette thèse abominable sont revenus depuis que le terroriste est abattu en disant, ben voyez, la preuve que nous avions raison, c'est que le gouvernement a dû faire abattre le terroriste pour qu'il ne parle pas de sa responsabilité. On est en plein délire et ça part toujours de la même question. À qui profite le crime ou un événement choc? Ça a commencé avec l'assassinat de John Kennedy, où il y a eu des gens dans les jours qui ont suivi pour dire les véritables coupables, ce sont des agents de la CIA qui ont organisé cet assassinat pour répondre à des querelles politiques interne. Et puis ensuite, chaque fois qu'il y a eu un événement, une disparition, un suicide mal expliqué, on a remis le couvert. Alors au moment où on a trouvé Robert Boulin noyé dans quelques centimètres d'eau, au moment où le pauvre Daniel Balavoine a péri dans un accident aérien, au moment où Coluche, qui était pourtant un champion de moto, s'est tué sur la sienne, au moment où Jean-Édouard Nallier faisait du vélo alors qu'il était aveugle. Alors, le suicide de Pierre Bérégovoy, ça a été quand même plus difficile à imputer à un tiers, mais enfin, on a pensé quand même, certains ont pensé que quelqu'un lui avait tenu la main quand il avait appuyé sur la détente. Et puis, il y a eu surtout les rumeurs qui ont couru après le décès accidentel de la Lady Diana dans le tunnel de l'Alma, des mauvaises langues qui ont prétendu que c'était la couronne britannique qui avait organisé cet accident afin que la mère des héritiers du trône n'épouse pas un arabe, ce qu'elle s'apprêtait à faire. Alors, en ce qui concerne cette dernière rumeur épouvantable qui a couru après l'attentat de Strasbourg, on a pris appui sur une circulaire qui avait été envoyée pour demander aux Français de rester chez eux. Et cette circulaire portait une heure, ce qui est normal, mais ce qui n'était pas normal et ce qui a valu ces interprétations calomnieuses, c'est le fait que l'heure précédait de plusieurs heures celle du véritable attentat. Donc on s'est dit, si on est capable de prévoir cet attentat avant qu'il ait été commis, c'est qu'on l'a organisé. Et puis, bon, il y a eu une explication, mais naturellement, on lui a donné moins de place qu'à la calomnie. C'était que la nouvelle avait transité par la côte ouest des États-Unis, où il y a un fort décalage horaire par rapport à l'heure française. Et puis alors, il y a eu aussi le complotisme au moment des attentats du 11 septembre. Il ne s'est rien passé du tout. Il n'y a même pas eu un avion qui a percuté le mur du Pentagone. Non, non, on a aménagé un trou et puis on a raconté n'importe quoi. Et puis alors, la cerise sur le gâteau. Les Américains n'ont jamais mis le pied sur la Lune, non, jamais, non. Ils ont simplement demandé à des gens de la télévision de reconstituer un décor lunaire à partir duquel on a bricolé un petit Apollo et on a fait descendre des figurants en scaphandre. Enfin, voyez-vous, c'est n'importe quoi. Mais c'est souvent, en même temps que n'importe quoi, abominable. Et il faut que l'opinion publique, qui a son mot à dire et qui reste souvent trop silencieuse, s'insurge contre ces fausses nouvelles.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
Les violences, toujours les violences, mais cette fois les violences éducatives, c'est-à-dire des violences qui sont imputables d'abord aux familles, qui corrigent, entre guillemets, les enfants, aux éducateurs, et depuis quelque temps même aux policiers, et là je pense aux lycéens Trublion de Mantes-la-Jolie. Alors ce sont des violences pour le bon motif, c'est-à-dire remettre, comme on disait naguère, des enfants turbulent ou fautif dans le droit chemin. Et en fait, c'est de la maltraitance, surtout lorsqu'elle est répétitive et elle est parfois suivie de décès. Il y avait une convention internationale qui interdisait de molester les enfants, mais elle n'était pas conforme au droit français. Il a donc fallu que les parlementaires de notre pays s'y reprennent à deux fois, il y a 8 mois de distance, pour accoucher d'un texte qui protège aujourd'hui véritablement l'enfant. Alors, il y avait plusieurs sortes de violences éducatives. Il y avait la fameuse fessée avec plusieurs variantes, c'est-à-dire la fessée avec vêtements, la fessée à cul nu, comme on disait, la fessée en petit comité, la fessée devant témoin, beaucoup plus humiliante. Il y avait aussi la gifle qui pouvait provoquer des lésions. Et il y avait le tirage d'oreilles qui était très mal vu par les ORL. Eh bien, aujourd'hui, tout ça tombera sous le coup de la loi. Alors, pour les violences légères, les parents et les éducateurs s'en tireront avec une amende. Mais pour les violences lourdes et répétées, ça pourra aussi entraîner des peines de prison fermes. La France, quand même, fait figure de pays évolué. Mais malheureusement, il y a encore dans le monde des nations apparemment modernes où le châtiment des enfants demeure une tradition. Je pense au Maroc, par exemple, où on a imaginé dans les lycées une espèce de tourniquet qui bloque les chevilles des enfants fautifs afin qu'on puisse leur infliger des coups sur la plante des pieds. Et en Hongrie, on considère que ces coups sont à la bonne éducation ce que l'engrais est à l'agriculture. Pas moins. Aujourd'hui, il y a un livre qui paraît opportunément sur ces violences éducatives. Il est signé par Thierry Beccaro, qui est comédien et animateur de télévision, et il s'intitule « Je suis né à 17 ans ». Bonjour Monsieur Beccaro.
Bonjour Philippe, quel plaisir de vous retrouver.
Qu'est-ce que votre père vous reprochait ?
Moi, mon père me reprochait son histoire avec ma mère. Je vous ai écouté attentivement, là. C'est-à-dire que les fessées dont vous parlez, à l'époque, c'était des raclées. Tout ça, c'était des humiliations que vous transportez des années plus tard dans votre sac à dos.
Les années ont passé. Avez-vous pardonné ?
Je crois, Philippe, ouais. Ouais. Il fallait passer à autre chose. Donc maintenant, on est plutôt, je dirais, en ce qui me concerne, dans une phase d'apaisement et de partage avec les gens qui lisent le livre. Parce qu'on se croit tellement seul quand on vit ces choses-là, que tout à coup, quand on s'aperçoit que l'autre, de l'autre côté, il a vécu ou il vit peut-être la même chose, vous n'imaginez pas à quel point, tout à coup, on se retrouve, ça crée une espèce de petite famille où on se comprend et on s'aide.
Merci Thierry Beccaro.
Et merci beaucoup, ça me touche infiniment.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
Est-ce que les retraités seront un jour des citoyens à part entière ? Je pose la question à la fois comme journaliste et comme semi-retraité. Alors bon, bien sûr, ces temps-ci, ils ont eu une petite faveur qui consistera à leur rendre 34 euros par mois de pouvoir d'achat, puisque au moins ceux qui ne touchent pas plus de 2000 euros par mois se verront ou bien remboursés, j'ai pas compris exactement, en tout cas ne seront plus amputés de la totalité de l'augmentation de la CSG. Alors bon, aujourd'hui on dit plus les vieux, on dit les seniors. Bon, ça leur fait une belle jambe, mais ça n'évite pas les phlébites. Ils sont 14 millions. Bon, 14 millions, c'est-à-dire un peu moins d'un quart de la population, mais un quart particulièrement méritant qui, par en définition, a beaucoup travaillé avant de toucher de quoi survivre. Et ils n'ont même pas de ministre de tutelle, non ? Alors vous me direz, bon, il y a un ministre de la solidarité, mais il a en charge la totalité de la population. Il y a tout juste Jean-Paul Delevoye, qui fut le président du Conseil économique, social et environnemental, est devenu le haut commissaire à la réforme des retraites pour se préoccuper un peu de leur avenir. Mais pour leur présent, ils n'ont pas d'autorité de tutelle. Alors que, par exemple, les spécialistes de l'informatique, qui sont seulement 640 000, disposent, eux, d'un secrétaire d'État. Bon, le retraité a une retraite à laquelle il a cotisé de façon obligatoire, une complémentaire qui est devenue obligatoire aussi, et puis après, des complémentaires facultatives, et puis une infinité de régimes, à telle enseigne qu'il y a un tiers des retraités qui cotisent ou qui ont cotisé ou qui touchent de 7 caisses de retraite différentes à la fois. Alors, bon, on a déjà fait un petit peu de ménage en supprimant certains régimes spéciaux, comme ceux qui bénéficiaient aux cheminots ou aux anciens d'EDF. Mais le ménage est loin d'être terminé. Je vous rappelle que c'est un dossier que, lors de son passage à Matignon, Lionel Jospin avait déjà sur son bureau un dossier urgent qui s'est bien gardé d'ouvrir, parce que, bon, on peut appréhender, étant donné l'augmentation de la durée de la vie, on peut appréhender qu'il faille encore travailler davantage. D'ailleurs, je vous rappelle quand même qu'on a travaillé longtemps, jusqu'à 45 heures par semaine, hein. Bon, avant que Madame Aubry mette bon ordre avec ses 35 heures qui, paraît-il, ont complètement désagrégé l'économie du pays. Enfin, ça, c'est un autre problème. Alors, ce qu'il y a de scandaleux aujourd'hui, c'est l'écart entre les retraites des femmes et les retraites des hommes. D'autant qu'il y a beaucoup plus de retraités féminines que de retraités masculins. Cet écart, il s'établit, excusez du peu, entre 1700 et quelques euros pour les hommes, 1060 euros pour les femmes. Bon, les femmes bénéficient plus souvent de ce qu'on appelle la pension de réversion, pension qui est calculée d'ailleurs sur les années d'union ou de mariage. Et aujourd'hui, où on a, paraît-il, plusieurs amours dans sa vie, comme on exerce plusieurs métiers, ce qu'on appelle in fine la reconstitution de carrière est devenue de plus en plus difficile, parce qu'on a exercé des métiers différents et qui relèvent de caisses de retraite différentes. Bon, heureusement, on peut faire confiance à M. Delevoye, qui est un grand serviteur de l'État, pour mettre de l'ordre. Alors, j'ajoute qu'il y a quand même un petit pourcentage de retraités qui cumulent la pension et un emploi. Et alors, ils sont amenés, bon, à travailler au-delà des limites, mais ils sont souvent volontaires. Et ils s'ennuieraient chez eux, donc ils choisissent cette solution. Mais on les oblige, ce faisant, à cotiser. C'est-à-dire qu'ils cotisent à fond perdu. On leur retient sur leur petit salaire de complément un pourcentage qui profite à la caisse, mais qui ne leur vaut même pas quelques demi-points supplémentaires. Bon, il faut quand même saluer la mesure qui accorde une bonification de 8 trimestres à ceux qui ont travaillé dans des secteurs où la pénibilité est une tradition. Bah, peut-être les princes qui nous gouvernent et que nous rendons si malheureux depuis quelque temps.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
Moi, je pose la question et je ne suis pas le seul parce que les spécialistes, les ministres et les bénéficiaires se la posent également. Le SMIC est-il une potion magique? En tout cas, on a rajouté un peu de liquide dans la bouteille et ce n'est pas négligeable puisqu'il s'agit d'une augmentation mensuelle de 100 euros. Mais le SMIC a une histoire. D'abord, au départ, c'était le SMIG et sa création remonte à Georges Bidault. C'est vous dire que ce n'est pas d'hier. Le SMIC est quand même le salaire que doivent percevoir tous ceux qui travaillent et qui sont déjà âgés de 18 ans. C'est quelque chose d'important qui permet, quand on a une charge de famille, qui permet difficilement de vivre, mais qui permet d'attendre en tout cas des jours meilleurs et puis des réactualisations qui doivent intervenir chaque année. D'ailleurs, il y a eu de nombreux coups de pouce du SMIC. Et je ne veux citer que celui qui est intervenu après mai 68, lors des accords de Grenelle, et qui a valu à ceux qu'on appelait déjà les SMICards 24% d'augmentation. Ce n'était pas rien. Alors, il y a eu même une époque où le SMIC a augmenté plus que les salaires. Et aujourd'hui, bon, il faut simplement déplorer que les charges salariales soient beaucoup plus élevées que les charges patronales. Parce que le patron paie 5% de charges sur les SMIC qu'il verse. C'est suffisant d'ailleurs. Mais le pauvre SMICard, lui, voit son salaire amputé de 19%. C'est ce qui fait finalement 1210 euros net par mois. Et ça, c'est souvent insuffisant pour nourrir une famille. Le portrait du SMICard type, c'est une femme qui travaille dans un fast-food. Et d'ailleurs, il y a des secteurs où on trouve beaucoup de SMICards qui sont l'hôtellerie, qui sont précisément la restauration, qui sont le tourisme, qui sont le commerce et qui sont la coiffure. Ça fait au final 11% de la population, c'est-à-dire 1 080 000 SMICards en France. Mais quand on regarde de plus près et qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de salaires qui tendent vers le SMIC, ils ne sont pas moins de 11 millions ceux qui profitent de cette petite potion, dont je ne dirais pas qu'elle est magique, mais enfin, elle représente un effort social et le gouvernement ne pouvait pas faire dernièrement l'impasse sur son augmentation.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
Alors, l'expression de la semaine, généralement, elle remplace une autre expression. Alors, l'expression qui est tombée en quenouille, c'est important. C'est important précédait et suivait la plupart des propos des intervenants de l'audiovisuel. Et aujourd'hui, on dit plus c'est important, on dit c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Alors, on ne dit pas c'est complexe, parce que ça fait un petit peu un télo. Non, on dit c'est compliqué. Et c'est compliqué, ça veut dire c'est un très gros problème qui n'a toujours pas trouvé de solution. Alors, si on vous dit c'est compliqué et qu'on se lance dans une grande digression, c'est du temps perdu pour vous. Vous feriez mieux d'écouter de la bonne musique.
Allô, ici Bouvard sur RTL.